Voilà, David est maintenant bien établi dans son règne. C'est ce que le chapitre précédent va établir. Il a battu tous ses ennemis. Il commence à être riche. Ses victoires ont permis de remplir les coffres de l'État. Il a traité tous les dossiers urgents, les dossiers en cours. Il a mis en place son gouvernement et ses ministres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire quand il peut faire ce qu'il, quand il peut faire ce qu'il veut? Quand il a les clés du pouvoir, qu'est-ce que David va faire? Eh bien, il fait quelque chose de très surprenant, en tout cas qui devrait nous étonner. Les habitués de la foi chrétienne, peut-être plus étonnés, mais il faut être étonné par cette démarche de David. Moi-même, j'ai été rappelé à quel point sa démarche est étrange pour beaucoup, je pense. J'ai un excellent commentaire sur les livres de Samuel, de la vie de David. Le gars, il maîtrise parfaitement l'hébreu, et donc il fait ressortir souvent des choses intéressantes, mais il se trouve qu'il n'est pas chrétien. Et quand il lit un tel chapitre, il va l'interpréter avec un autre regard. Lui, il explique que tout ce chapitre, c'est comme un coup calculé de David pour mettre un concurrent sous surveillance. Une espèce d'assignation à domicile. Mephibosheth va finir chez David, mais c'est pour lui, c'est une manière gentille de le mettre en prison et de surveiller. Mais nous, avec le regard de la foi chrétienne, pour nous, c'est tout le contraire. C'est pour nous, ce chapitre, dans ce que David fait envers Mephibosheth, nous avons une excellente illustration du message qui est au cœur de la Bible, du message de grâce. Que nous célébrons encore ce matin dans un culte chrétien. Alors, pour suivre un peu le trame de cette histoire, je propose de voir tout d'abord la bonté bienveillante qui ressort dans ce chapitre, ensuite le bénéficiaire boiteux, et enfin la bonne manière de recevoir cette bonté. Si vous voulez suivre ainsi avec moi, voilà, vous pouvez. Donc, tout d'abord, la bonté bienveillante, le mot-clé de ce chapitre. C'est le mot qui revient plusieurs fois, c'est même un mot-clé de tout l'Ancien Testament, c'est le mot que vous trouvez en verset 1, quand il dit, est-ce qu'il reste encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien, ce mot bien. C'est le même mot est traduit en verset 3 par bonté, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je use envers lui de la bonté de Dieu. Et encore en chapitre 10. Quasiment dans le même verset, chapitre 10, verset 2, David dit, je montrerai de la bienveillance à un humain. Donc, traduit bien bonté ou bienveillance dans ces chapitres. Louis II, il nous a donné une bonne traduction, mais parfois, il ne traduit pas le même mot hébreu avec le même mot français. C'est un effet de style, il faut trouver des synonymes. Mais d'autres traductions nous rendent mieux service en maintenant le même mot hébreu par le même mot français. Et ici, c'est le même mot qui revient, et c'est un mot-clé de ce chapitre, et c'est un mot-clé de tout l'Ancien Testament. C'est le mot hébreu hesed, qui veut dire bonté ou bienveillance ou bien, souvent traduit miséricorde, parfois traduit clémence. C'est un mot très riche pour les Hébreux. Hesed, c'est la valeur clé pour eux, cette bonté qui aime fidèlement, cette bonté loyale, qui est un attribut de Dieu. Une bonté, il y a beaucoup de choses qui mettent dans un petit mot hébreu, hesed, mais c'est cette bonté qui aime fidèlement, ou une notion de miséricorde contractuelle, miséricorde loyale. Si vous voulez d'autres détails, je vous réfère à mon prof d'hébreu, qui peut vous expliquer mieux toute la richesse de ce mot. C'est un mot-clé de tout l'Ancien Testament. Quand on arrive au Nouveau Testament, bien sûr, il n'y a plus d'hébreu, c'est du grec, mais c'est la même idée, est souvent traduit grâce ou bien amour, agapé. Et ça, c'est des notions que nous commençons à connaître aussi. Voilà. Mais pour Dieu, lorsqu'il veut définir ses mots, lorsqu'il veut définir ses termes, il ne nous donne pas un dictionnaire. Il nous donne des histoires. Il nous donne des histoires de l'Ancien Testament, et à travers ces histoires, nous commençons à mieux comprendre les valeurs clés de son cœur. Et cette histoire va nous illustrer tout ça, toute cette bonté bienveillante, toute cette grâce, cet amour qui est un thème de la Bible. Si demain vous devenez président du pays, que vous mettez en place votre gouvernement avec les ministres de votre choix. Quelle sera votre première action? Je me souviens, en 2007, Obama avait dit que son premier acte serait de rendre les avortements beaucoup plus faciles et accessibles et jusque très tard dans la grossesse. Ça, c'est une manière d'agir. Pour d'autres, première action, quand on a le pouvoir, quand on a les clés, quand on a les moyens, l'argent, pour beaucoup, en tout cas à cette époque, c'était d'écarter tous les concurrents. Alors normalement, la démarche normale, les démarches habituelles de la plupart des rois de cette époque, si on relisait le verset 1, un roi normal aurait dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je puisse l'écraser, que je puisse le mettre à mort ?» Ça, c'est la démarche normale. Mais c'est ça qui est étonnant, surprenant. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste de la maison de mon adversaire, la maison de mon ennemi, pour qui je peux faire du bien? Et c'est là où David va prouver un peu les valeurs de sa politique, les valeurs de son gouvernement. Chez nous, on parle de liberté, égalité, fraternité. Mais les valeurs du gouvernement de David, c'était essède, c'était bonté, bienveillance. Et c'est même pas un cas isolé parce que le chapitre 10 commence de la même manière. Il dit, je vais montrer du hesed, je vais montrer de la bienveillance à encore une autre personne dont il se souvenait. Donc là, en vrai, on voit que c'est vraiment ce qui motive son gouvernement, sa politique. C'est le désir de son cœur. Mais c'est plus fort encore que ça quand on comprend la notion de la bonté bienveillante, si je peux le dire ainsi, dans la Bible. Cette bonté, c'est plus qu'un sentiment de cœur. Cette bonté, et c'est ça qui est la richesse de ce mot, cette bonté, c'est une bonté qui est basée sur une alliance, basée sur une promesse. Parce que on avait vu ça en 1 Samuel chapitre 20, lorsque Jonathan était toujours en vie. David et Jonathan étaient de très bons amis. On a vu qu'à un moment, ils ont fait alliance ensemble, ils se sont promis de se soutenir, de s'aimer, et de prendre soin l'un de l'autre. Et il y avait cette scène très touchante où David était persécuté par Saül, mais Jonathan vient à son aide. Et dans un instant dramatique pour David, Jonathan jure de lui être fidèle et de prendre soin de David. Et David jure de son côté d'aimer Jonathan et sa maison. Donc il y avait une promesse, il y avait une alliance que ces deux amis se sont faites. Et David va rester fidèle à cette promesse. Et donc cette bonté, c'est une bonté qui est basée sur une alliance, basée sur une promesse qui rend la chose encore plus solide, encore plus belle. Et ici, plus tard, des années plus tard, quand Jonathan n'est plus là, quand il est mort, eh bien, on voit que David... Il reste fidèle à sa parole, il reste fidèle à l'alliance qu'il avait traitée avec son ami Jonathan. Et il ne revient pas sur sa parole, mais il tient bon et il fait du bien, il fait de la miséricorde, il fait de la bonté à un descendant de Jonathan. Et c'est là où l'on voit que David est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Parce que au cœur de Dieu, il y a cette bonté qui est basé sur une promesse, basé sur une alliance. Ça, c'est le mot-clé chez Dieu, si vous voulez, la grâce. Mais la grâce de Dieu est une grâce loyale, une grâce fidèle, une grâce basée sur une promesse, une alliance. Ça, c'est le message de la Bible. Ce matin, le baptême, c'est un symbole aussi on parle de la nouvelle alliance. Chaque fois qu'on parle du Nouveau Testament, ce mot « testament », c'est le même qu'alliance. Le Nouveau Testament, c'est une alliance. Et la grâce qui est au cœur du Nouveau Testament, c'est une grâce basée sur une promesse, une alliance. Ça, c'est au cœur de Dieu. Et David l'illustre si bien dans ce chapitre, ce désir de montrer une grâce fidèle, une grâce loyale, une bonté bienveillante. Et vous pouvez savoir que c'est encore ce qui anime le cœur de Dieu ce matin. On peut très bien imaginer Dieu dire ça, réfléchir ainsi. Y a-t-il quelqu'un à Toulouse pour que je lui fasse du bien. Et maintenant, vous voyez la richesse de ce mot bien, ce n'est pas juste un petit sentiment. C'est un bien rempli de grâce, de bonté, de fidélité, basé sur une promesse, sur une alliance. Y a-t-il quelqu'un ce matin à qui je peux montrer ma bonté bienveillante, aimante, clémente, loyale? Voilà ce qui anime le cœur de Dieu et que David montre si bien. Pour mieux comprendre, donc, voyons le bénéficiaire boiteux qui va recevoir qui est destinataire de cette grâce, de cette bonté. Il s'agit de Mephibosheth. Alors, plusieurs qualités de Mephibosheth le rend un fort exemple d'un bénéficiaire de la bonté. Tout d'abord, c'est un inconnu. Nous voyons ça dans les premiers versets. David dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste de la maison de Saül? Et l'entourage de David ne sait même pas. Alors, ils sont obligés d'aller chercher un ancien serviteur de Saül. Et il lui repose la question, est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saül? Donc, Mephibosheth est connu de personne, peut-être du serviteur de Siba, mais sinon, autour de David, personne ne sait. Donc, c'est un inconnu. Ensuite, il y a ce détail fort qui ressort, c'est un perclus des pieds, c'est un boiteux. Et pour revenir à l'histoire, peut-être vous vous souvenez, mais en 2 Samuel chapitre 4, verset 4, on apprend comment Mephibosheth était devenu boiteux. Verset 4, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit, il s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Et son nom était Mephibosheth. Donc, il est boiteux suite à un accident tragique. Sa nourrice a compris l'enjeu. Hein, quand le roi est mort, quand le prince est mort, alors là, c'est sûr que sa vie est en danger. Donc, dans sa précipitation, elle voulait le sauver, mais il était devenu boiteux. Donc, c'est un inconnu. C'est un boiteux. En plus, on nous dit qu'il habite à Lodébar. Lodébar, c'est cette semaine, dans nos cours d'hébreu, que nous avons appris la signification de l'eau. C'est pour les débutants. L'eau, c'est ne pas, ne, la négation. Donc on apprend ça au début. L'eau, c'est ne ou pas. Et de bar, c'est, ça j'ai pas encore appris, j'ai dû chercher moi-même. De bar, c'est pâturage ou le champ ou lieu. Donc il vient de pas un champ. C'est même pas qu'il vient d'un champ ou une ville, il vient de pas un pâturage. Il vient, on pourrait dire, il vient de nulle part. Je crois que même en français, on a des noms de villages comme ça. Pétaouchnok. Ou Perpète-les-Bains. Voilà. Il vient de... Ça, c'est Lodébar, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est un inconnu. Il est boiteux. C'est un orphelin. Il a perdu son père. Il est victime d'une tragédie triste, il vient de nulle part, et en plus de tout ça, à cause de sa paternité, ses parents, normalement, il devrait se trouver dans le collimateur du roi, puisque il fait partie de la maison qui s'était opposée à David, à la dynastie de David. Donc c'est un ennemi naturel du trône. Alors avec tout ça, quel avenir auriez-vous donné à Mephibosheth? Inconnu, boiteux, ennemi, orphelin. Ça c'est Mephibosheth. Et c'est à lui que David dit en verset 7, « Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » En faisant ça, il dit, pour ainsi dire, David est en train de dire, voilà, je te prends chez moi, je t'adopte, tu seras comme un prince dans ma maison, tu seras comme un fils du roi. Manger à la table du roi, c'était comme être adopté par le roi. En verset 10, on nous donne ce détail que Tsiba était serviteur, lui il avait 15 fils et 20 serviteurs. Alors plus tard, Ziba va être déloyal à son maître, il va être fourbe, il va manifester tout le contraire de cette qualité dont nous parlons ce matin, essaie de bonté fidèle. Ziba va faire tout le contraire. Mais pour l'instant, on nous rapporte juste ce détail qu'il avait 15 fils et 20 serviteurs, donc ça fait 36 personnes en tout. Ziba plus 20 plus 15, ça fait 36 personnes qui vont travailler à exploiter les terres pour Méphibosheth. Alors, c'est juste pour imaginer la taille de l'exploitation agricole quand il faut 36 personnes à plein temps pour le gérer. Et tout ça, ça sera rapporté à Méphibosheth. Donc, c'est de la richesse. C'est grandiose ce que reçoit Méphibosheth. Mais en plus de tout ça, Méphibosheth n'a même pas besoin de ça pour vivre. Lui, il va être nourri, blanchi, logé à la maison du roi. Donc il va avoir tout ça, plus les rentes qui viennent de 36 ouvriers. C'est une situation confortable. Alors vous vous rendez compte, en un instant, sans avoir cherché, sans avoir mérité, sans avoir démarché, en un instant, toute la situation de Méphibosheth change. Il passe d'être un exilé, un ennemi du trône, un étranger, un inconnu. En un instant, il passe à être un prince, un fils adopté du roi, un riche, un honorable, un noble du pays. Par simple décret royal, il ne le cherchait pas, il ne démarchait pas, mais le roi a pris cette décision, cette résolution de le faire ainsi. La signification des prénoms. Cette semaine, j'étais un peu occupé par la signification des prénoms. Mais surtout dans l'Ancien Testament, vous savez que les noms ont un sens. Souvent, les noms véhiculent des messages que Dieu a voulu incarner, mettre dans son histoire. Méphibosheth signifie chasseur de honte, exterminateur de honte. Il avait un oncle qui s'appelait Ishbosheth, qui voulait dire homme de honte. Je ne comprends pas les parents qui nomment leur fils ainsi, mais c'est ainsi. Mais Méphibosheth, on comprend un peu mieux, exterminateur, chasseur de honte, mettre fin à la honte. Voilà ce que veut dire son nom. Effectivement, c'est ça qu'il va vivre. Sa situation avant était honteuse. Il était handicapé, il était, à part son handicap, par son héritage, il ne pouvait que vivre dans la honte. Mais il passe de la honte à l'honneur en un instant parce que le roi l'a voulu ainsi. Eh bien, ça, vous le voyez, je pense, ça c'est le message chrétien, ça c'est l'offre de salut, ça c'est ce qu'on appelle la justification dans la Bible. Tout chrétien a vécu la même chose. Au fond, nous sommes tous des boiteux du cœur, des infirmes. La honte à cause de notre passé, à cause de nos péchés. Nous sommes des ennemis naturels de Dieu, à cause de nos actes et nos pensées. Et puis, par un décret divin, en un instant, il nous convie, il nous fait venir et il décrète, voilà, maintenant, t'es mon fils, t'es mon prince, t'es dans ma maison, t'es un noble, t'es un riche, sans l'avoir cherché. Ça c'est le salut, ça c'est les bénéficiaires de la bonté, le essai de Dieu. Voilà ce qui se passe. C'est l'affaire d'un instant, cette offre de salut. Et nous avons tous l'occasion de le vivre. Et pour ça, il suffit de la bonne manière de recevoir que Méphibosheth va nous montrer. Ici, il est dit qu'il tomba sur sa face et se prosterna. Plusieurs ont remarqué que pour un boiteux des deux pieds, c'était peut-être pas le geste le plus facile de tomber sur sa face et se prosterna. En plus, en verset 8, il dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort quelques mois ?» les psys modernes déconseilleraient un tel langage et diraient à Mephibosheth qu'il faut qu'il travaille un peu sur l'estime de soi. Mais nous voyons dans son attitude une humilité qui est honorable. Vous savez, l'expression « chien mort », à l'époque, c'est reconnaître quelque chose d'impur, de sale. Déjà, un chien, c'était impur. Ce n'était pas comme nos animaux domestiques. Un chien, c'était impur. En plus, mort, c'était doublement impur et indigne. Alors, cette expression montre toute l'humilité, la bassesse avec laquelle il aborde le roi. Aucune revendication. Aucun blâme, aucune victimisation. C'est vrai, il aurait pu blâmer son grand-père, il aurait pu blâmer son père, il aurait pu blâmer son nounou, il aurait pu blâmer le nouveau gouvernement, et il aurait pu être rempli d'amertume et de critique et de revendication. Mais ce n'est pas son attitude. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Donc vraiment, un sentiment d'humilité, de bassesse, mais en même temps, il n'y a pas que ça. C'est ça qui est fort chez Mephibosheth. Il est un chien mort, mais c'est un prince du roi maintenant. Et on voit qu'il accepte la bonté du roi. Et on le trouve à la fin du chapitre en train de manger chez le roi. Il pourrait dire, ah non, ça, je ne mérite pas tout ça, malheur à moi, je ne peux même pas prendre ça, je reste dans mon coin. Vous connaissez cette fausse humilité, cette fausse politesse qui décline tout pour plutôt rester indépendant. Ce n'est pas son cas. Il est à la fois un chien mort, à la fois un prince noble. C'est ça la foi aussi. Tous ceux qui ont compris la grâce de Dieu ont la même attitude. Oui, aux yeux de Dieu, je ne suis pas bien mieux qu'un chien mort. Mais puisqu'il me le dit, puisqu'il décrète, puisqu'il me traite comme fils adoptif, comme prince, d'accord, je vais vivre comme tel. Mephibosheth montre en effet la bonne manière de recevoir la grâce, la bonté du roi, de Dieu. Et je pense qu'en chapitre 10, on nous raconte une autre histoire que nous pouvons lire rapidement maintenant pour montrer le contraste entre une autre manière de recevoir la bonté, le hessed que David voulait montrer. Je vous lis les premiers versets. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourut et Hanun, son fils, régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance, même mot hébreu, je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître, explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe, leur fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis les congédia. David, qui fut informé, envoyait des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion, et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Voyez, une autre manière de répondre à la bonté bienveillante que David veut montrer. C'est exactement la même démarche, début chapitre 10, que début chapitre 9. Je veux montrer cette bonté fidèle. David dit, son père a été... on s'était alliés en quelque sorte, donc je veux montrer cette bonté, cette grâce envers lui pour le consoler. Mais eux, ils ne répondent pas du tout comme Mephibosheth. Au contraire, ils soupçonnent le mal, ils soupçonnent que David veut les détruire, ils méprisent l'offre et eux, ils le transforment en honte, transforment en scandale. Justement, à l'époque, raser la moitié de la barbe, renvoyer les ambassadeurs dénudés en quelque sorte, c'était une manière de vraiment scandaliser l'offre de la bonté, scandaliser le roi. Et cette manière de répondre à la bonté, eh bien nous la trouvons encore aujourd'hui. Quand Dieu tend sa bonté, sa bienveillance au monde, beaucoup soupçonnent un mauvais coup de la part de Dieu. Ah oui, il veut me détruire, il veut me contrôler. Et cela, je vais afficher tout mon troisième point. Ce matin, nous parlons de la bonté bienveillante, aussi de bénéficier boiteux, mais la bonne manière de recevoir le bébé à Bethléem, je me suis permis. Puisque c'est ça aussi cette histoire. Dieu, quand il envoie un bébé à Bethléem, c'était sa manière de dire, maintenant, j'aimerais montrer ma bienveillance, ma bonté aux hommes. C'était le geste par excellence. David l'a fait à sa manière plusieurs fois. Mais Dieu, de la manière la plus ultime, il dit, est-ce qu'il reste quelqu'un à qui je peux montrer ma bienveillance? Eh bien, j'envoie mon ambassadeur. Mon ambassadeur par excellence, c'est mon fils Jésus-Christ. Alors comment allons-nous recevoir ce bébé à Bethléem? Et justement, nous voyons que beaucoup répondent comme Hanun. Ah! Il est venu déranger ma vie, certainement. Il est venu pour me détruire. Il est venu pour m'embêter. Il soupçonne le mal. Alors, le monde a fait à Jésus comme Hanun a fait aux ambassadeurs de David. Mais ils sont allés encore plus loin. À Jésus, oui, on l'a arraché de sa barbe. On l'a déduné. On l'a mis sur une croix. C'était la manière la plus honteuse de traiter l'ambassadeur de Dieu. Mais c'est sur cette croix que Jésus a vraiment signé l'alliance. C'est là où il a prouvé la bonté bienveillante de Dieu. C'est là où maintenant ce sentiment d'amour de Dieu, ce désir de nous faire grâce, c'est pas juste une bonne idée, un sentiment. C'est maintenant basé sur une promesse tellement solide, puisque signée dans le sang de Jésus-Christ, puisque accomplie par sa mort et sa résurrection. C'est là où Dieu a fait essai a offert son amour, sa bonté aux hommes. C'est là où il met fin à notre honte. Jésus est aussi notre Méphibosheth, celui qui extermine, qui chasse notre honte et qui remplace avec l'honneur, avec l'adoption. Alors nous voici à Noël. Et encore la question, c'est comment allez-vous recevoir la bonté bienveillante de Dieu? Quelle manière? Parfois, il faut faire comme Méphibosheth, se mettre à genoux, même si ça nous est difficile parfois, boiteux que nous sommes. Comme dit le cantique, c'est de la crèche que Dieu prêche à l'orgueil des grands. C'est de là qu'il faut courber nos fronts, mais en faisant comme Méphibosheth, nous sommes rétablis, nous sommes garantis une place à la table de Dieu, et c'est ça la bonne nouvelle.